Dutrisac.
S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
Politique publique avec Patrick Derry. Patrick, bonjour.
Salut Benoît.
Ah, je peux pas croire cette nouvelle qui vient de tomber, là, le gouvernement qui a pris une décision à propos de la surveillance des eaux usées.
Écoute, c'est à se cogner la tête sur les murs. On sait que les capacités du Québec présentement sont insuffisantes parce qu'on n'a pas été capable de les augmenter suffisamment pendant la pandémie. Donc, on restreint les tests PCR à une clientèle plus limitée. Et même si le nombre de tests a baissé puis qu'on pourrait les remonter, le gouvernement ne veut pas faire ça non plus, mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'il y a une autre méthode pour suivre l'évolution de la pandémie qui est peu coûteuse et qui a fait ses preuves ailleurs. C'est quoi? C'est d'examiner les rejets dans les eaux usées pour voir la prévalence du virus. Ça se fait ailleurs au pays, ça se fait en Europe, ça s'est fait aussi au Québec grâce à une entente avec l'École de Polytechnique à Montréal et ça a permis de voir l'évolution du virus. Donc, c'est un outil de surveillance de plus. Ce qui est intéressant, c'est que ça dépend pas du dépistage et on peut pas vraiment y échapper parce que c'est ce qui s'en va dans nos toilettes puis qui sort aussi. Fait qu'on peut pas passer à côté. Et là, le gouvernement ne veut pas le reprendre. Il y a eu un avis récent de l'Institut national de santé publique qui conseille le gouvernement, qui a dit en gros que ça a l'air bien bon, là, mais puis ça marchait ailleurs, mais vous savez, puis ça marche même ici, mais en tout cas, on n'est pas sûr, là, puis il se base sur des études dont les plus récentes datent de février 2021, donc leur littérature date d'un an, et évidemment, ça a évolué beaucoup dessus depuis. Et le gouvernement, donc, se base là-dessus pour dire « Ah non, vous savez, on ne veut pas le savoir. » C'est complètement...
Il n'y a plus d'argument, là.
Il n'y a plus d'argument. Puis je veux juste expliquer, par exemple, là, le 13 décembre dernier, M. Legault, questionné sur l'arrivée éventuelle du variant Omicron, le Québec n'étant pas dans une bulle, c'est sûr que ça allait arriver, des journalistes lui demandaient « Bien, M. Legault, en Ontario, ils sont rendus à 20 % des cas avec Omicron. » Et au Québec, on se disait, M. Legault, il a dit, bon, on peut penser que ça va venir ici. C'est ça qu'il disait. Ça, c'était le 13 décembre. Et le Québec ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'on avait arrêté la surveillance des eaux usées, parce qu'on avait arrêté le criblage et le séquençage pour vérifier les cas de variants. Et c'est seulement le 16 décembre qu'on s'est rendu compte que, oups, c'est rendu dans 20 % des cas. Mais la surveillance des eaux usées, notamment par Sarah Dorner, eux l'avaient vu dès le début décembre. En Nouvelle-Écosse, à la fin novembre, on avait vu qu'il y avait des cas d'Omicron aussi, avant que ce soit repéré au dépistage. Il n'y a pas de désavantage. Ça coûte pas cher. On manque d'outils. On sait les dommages que ça peut faire. C'est juste de l'entêtement.
Bon, et un autre qui est entêté, c'est le ministre Roberge.
Oui, écoute, j'avais dressé toute une liste. Là, j'ai quasiment envie de passer dessus pour dire, à la base, ce que M. Roberge dit, il faut simplement penser que c'est le contraire qui est vrai. parce que c'est et il faut le répéter, parce que c'est un représentant du gouvernement. Hein. Au-delà d'être un politicien qui fait de la politique partisane au sein d'un parti politique, c'est un représentant du gouvernement du Québec. Donc, c'est un fiduciaire un peu de certains de nos services, dans son cas, l'éducation. Et hier, il a tenu un point de presse, il a fait une entrevue aussi avec Anne-Marie Dussault, dans lequel il répétait toutes les platitudes habituelles. Les lecteurs de CO2 viennent nous donner un coup de main après qu'on ait posé énormément de gestes. Les gestes, c'est un peu flou parce que nos écoles, on sait que c'est des liens à contamination. Les lecteurs de CO2, évidemment, ça ne change rien. M. Robert dit qu'on a dépensé des centaines de millions de dollars pour améliorer nos systèmes de ventilation. Les seuls chiffres qu'on a pour l'instant sur l'argent du fédéral, c'est 20 millions. Et le ministère de l'Éducation n'est pas capable d'en donner d'autres. M. Robert s'est vanté aussi des tests. Il dit, regardez, dès décembre 2020, on a fait des tests dans les classes. C'est formidable pour mesurer la qualité de l'air. Mais pendant ce temps-là, pendant que le Québec testait la qualité de l'air avec une méthode que j'ajouterais qui était assez discutable, l'Ontario installait des dizaines de milliers de purificateurs d'air dans les classes au même moment. Et même quand c'est sur des points techniques, ce que M. Roberge dit, c'est pas vrai. Il dit par exemple qu'en bas de 1500 parties par million pour la concentration de CO2 dans les classes, ce qui est un indicateur de la qualité de l'air, autrement dit, quand il y a trop de CO2, c'est parce qu'on expire puis il n'y a pas d'assez de nouvel air qui rentre. Il dit la qualité de l'air est correcte. Ben, c'est pas vrai. En Europe, la barre est généralement mise en dessous de 1000 cas par million, puis même 800 ou 600. Et en plus, on prend des données moyennes ici au Québec. Sur une journée, ça fluctue. Si tu es à 1500, par exemple, pour une journée au complet, ben, il y a peut-être des bouts où tu es à 800 puis 1000, mais il y a d'autres bouts où tu es à 2000 cas par million. Donc, ça fonctionne pas du tout. Et après ça, il a parlé du succès de la réouverture. C'est formidable. La réouverture des écoles au Québec est un succès. C'est sûr, on compte plus les cas. On compte plus les cas, puis on veut plus fermer les classes.
Puis on suit aux parents pour rapporter le nombre de cas.
Oui, puis on suit aux parents, puis on le santé publique ne communique plus avec les parents. Et en plus, le seuil pour fermer une classe est très élevé. C'est-à-dire qu'en Ontario, par exemple, il y a une vingtaine de classes, je pense qu'ils sont fermés jusqu'à maintenant. Ça prend 30 % d'absents. Au Québec, c'est 60 %. Donc, la barre est beaucoup plus haute. Et en plus de ça, le ministre a dit hier, je pense que c'était pendant le point de presse, cette fois-ci, c'est pas important de savoir s'il y a des cas dans la classe. C'est pas une raison pour que votre enfant s'absente.
C'est nouveau.
C'est ça. Alors, il a terminé le point de presse en entrevue en disant qu'on va être transparent.
Je sais plus quoi dire. Honnêtement, là, je suis bouche bée. On annonce 85 morts additionnels aujourd'hui. Ça baisse pas vraiment à ce point-là. Et là, tout
c'est
à coup.
C'est un succès, Benoît.
Ben,
c'est un succès.
C'est un succès, hein, parce qu'on a arrêté de comparer puis de tenir les chiffres. C'est pas pire. Là, on veut tendre la main aux non-vaccinés.
Oui, c'est une annonce qui a été faite par le ministre Carman hier. En gros, Québec veut ouvrir des cliniques de vaccination temporaires, d'abord à Montréal, ensuite ailleurs au Québec. On demande l'aide des étudiants en médecine, en soins infirmiers pour venir aider. On veut rendre une ligne téléphonique d'informations disponible pour les gens qui ont des réticences à la vaccination. Et l'objectif, en gros, c'est on veut aller rejoindre les non-vaccinés parmi les plus marginalisés. Là, on parle pas de gens qui sont nécessairement anti-vax 2, mais des gens qui sont moins formés, plus difficiles à rejoindre, plus vulnérables, des fois des problèmes de santé mentale. C'est correct, on est tout à fait d'accord avec ça. Moi, je veux juste mettre en contraste la vitesse à laquelle le ministère bouge et comment ça bouge à partir d'en bas. Et des organismes communautaires font ça, de la sensibilisation à la vaccination à Montréal depuis presque un an. Presque un an. Ils sont soutenus par des fondations. Il y a plusieurs fondations de familles fortunées à Montréal qui sont impliquées là-dedans. Et ça fait un an. Et là, le ministère arrive là en voyant qu'il y a une espèce de noyau qu'on a de la misère à percer. Puis évidemment, la vaccination, c'est un outil qui est important pour la pandémie. Donc, c'est pas tant pour dire que c'est pas une bonne initiative, mais ça, c'est une bonne illustration de c'est quoi un système centralisé où tout part d'en haut, où l'initiative se prend très difficilement, où il faut avoir des autorisations de 28 niveaux différents avant d'agir et où il faut que l'idée, finalement, elles viennent du ministre ou en tout cas du personnel qui l'entoure pour que ça finisse par redescendre et le temps que ça nous fait perdre.
Bon, et est-ce qu'on a le temps, une minute, pour continuer ta refonte, les rapports qui ont incité à changer le système de santé?
Ben oui, écoute, une minute, mais on va continuer demain à ce moment-là.
Oui.
Juste, depuis 20 ans, il y a au moins 13 rapports qui sont sortis pour changer rapport ou politique, rapport de commission, livre blanc et autres pour changer le système de santé. Et ça, juste pour les soins aux aînés, depuis 20 ans. Tu as la commission Claire, qui était un espèce d'acte fondateur en 2001. Après ça, tu as chez soi le premier choix, politique de soutien à domicile, 2004. Groupe de travail sur le financement de la santé, 2008. Commission sur les conditions de vie des aînés, 2008. Politique vieillir et vivre ensemble, 2012. Un livre blanc, 2013. Une commission parlementaire sur les conditions de vie des adultes en CHSLD, 2016. Un autre sur la maltraitance des aînés, 2017. Vieillir et vivre à mourir et vivre ensemble, pardon, 2018. Puis il y en a un autre, 2018-2019. Ensuite, une commission parlementaire en 2020. Le rapport de la protectrice du soignant en 2021. Rapport de la commissaire à la santé et au bien-être en 2022. Donc, ça, c'est une recension. J'ai pris une recension qui avait été faite il y a quelques années par Paul Journet, la presse. Et il y en a d'autres. Là. Ça compte pas tout ce qu'il y a dans les think tanks, les universitaires, des écrits. M. Castonguay, par exemple, qui avait écrit quelques livres sur le système de santé. Donc, pourquoi ça change pas? On a un problème d'incitation dans le système. Et la commissaire en parle dans son rapport. Elle dit en gros que les améliorations ne reposent pas sur les incitations financières, mais sur les motivations professionnelles et personnelles des individus. Autrement dit, si les mécanismes dans le système ne sont pas corrects, ça dépend de la bonne volonté. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui finissent par être tannés de devoir tout faire tout seul. Fait que c'est pour ça qu'on le répète à chaque fois. Mais écoute, on en parlera plus longuement dans une prochaine chronique.
On fera ça parce que c'est pas terminé. Patrick Derry, merci. À demain.
Bonne fin de journée.